La force ou la parole d'un homme, Seigneur, c'est ce que toi, Seigneur, tu es en mesure de faire dans le cœur de chacun. C'est personne, Seigneur, qui peut ouvrir nos cœurs. Et toi seul, Seigneur, est celui qui peut faire le miracle dans nos vies, le miracle dans nos cœurs, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et de diriger, de tourner nos regards vers toi, pleinement, Seigneur. Et ce matin, je prie, Seigneur, que tu tournes nos regards vers toi. Quelle que soit, Seigneur, la situation de nos vies, quelles que soient les difficultés, quelles que soient tout ce que nous pourrions connaître, Seigneur. Ça pourrait être de la joie, bien sûr, mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, que tout ce qui est en nous puisse prendre vraiment ce temps pour se tourner vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, et je voudrais partager avec vous un passage. Je voudrais prendre avec vous ce matin un passage que je pense que tout le monde connaît. Quand on dit « Jésus marche sur l'eau ». Bon, on connaît ce passage où Jésus marche sur l'eau et Pierre, il veut marcher sur l'eau et puis marche sur l'eau aussi un temps. Et malheureusement, à un moment donné, il commence à sombrer et Christ le relève, lui tire la main et il invite. Et d'ailleurs, il lui dit « Mais pourquoi tu doutais ?» Donc c'est sur ce passage-là que j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps ce matin. On va lire, c'est dans Matthieu, chapitre 14. Et on va lire Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Donc si vous avez vos bibles, ouvrez-les. Si vous avez vos téléphones, allumez-les. Éteignez Facebook et tous ces trucs-là. Twitter. Vous ne laissez pas distraire par tout un tas de choses, mais concentrons-nous sur la parole de Dieu. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Oh, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà la situation. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur un homme, je trouve que c'est un prestidigitateur, qui marchait sur des eaux, sur un lac, et tout le monde autour était comme ça, on voyait tous les gens, c'était une caméra cachée, et tous les gens étaient étonnés, certains étaient là, ils ont fait même un signe de croix, voilà. Il y avait un étonnement qui était là. Et je me dis, oui, bon, il y avait un truc, bien sûr. Il y avait un truc. Mais dans cette vidéo, c'était un petit lac. Il n'y avait pas de grandes vagues. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné s'il y avait des grandes vagues. S'il y avait une tempête. S'il y avait de la houle qui passait comme ça. Ça n'aurait pas été la même chose. Je pense que c'est pas pareil. Jésus ne triche pas. Et quand la Bible nous dit qu'il marche sur l'eau, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Alors qu'il y a de la tempête. Ça, des fois, quand on s'imagine, on voit Jésus marcher sur l'eau, d'accord? Mais on oublie peut-être parfois le fait que autour, c'était la tourmente. Ce même Jésus qui avait arrêté la tempête, qui avait dit au vent « Arrête-toi, tempête, calme-toi, devant les yeux ébahis des disciples qui étaient effrayés parce qu'ils se disaient, donc c'est dans un autre passage qu'ils se disaient qu'on va périr noyés, et Jésus dormait. La tempête, à Christ, ne lui fait pas peur. Et même, il marche au travers de cette tempête. Il marche au travers de cette houle, de ces vents violents qui sont là. Et le texte nous dit qu'il y avait des vents qui étaient contraires. On parle du lac de Galilée. On se dit, on pourrait se dire, un lac, je ne sais pas, une tempête, on l'imagine facilement dans la mer. Mais je peux vous assurer, pour y avoir été, que quand il y a une tempête au lac de Galilée, les bateaux ne sortent pas. On peut voir quand il fait soleil, l'autre livre, mais quand il y a une tempête, il y a des courants à l'intérieur et les bateaux ne sortent pas. Ça peut paraître étonnant, mais on parle d'une tempête dans un lac. On ne parle pas d'une tempête dans la mer, où le rivage est très très éloigné. On parle d'une tempête dans un lac. Et c'est possible. Et dans cette situation, donc le passage nous parle des disciples, il nous dit combien ils étaient en difficulté, parce qu'ils étaient, eux, au creux de la vague. D'accord ? Mais ils ont vu quelque chose qui les a encore plus effrayés. Et ils ont pris ça pour un fantôme. Et c'était le Seigneur. Et Pierre parle. Et Pierre, alors moi j'aime bien le personnage de Pierre. D'accord ? C'est pas la première fois que je parle sur Pierre. Parce que j'aime bien. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui est vrai. Son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Il est extrême dans ce qu'il fait. Mais c'est quand même celui qui a confessé le Messie. C'est quand même, et on retient souvent de Pierre ses mauvais, ses défauts, d'accord ? C'est vrai aussi dans beaucoup de situations, je pense. Hein, quand on pense à quelqu'un, on retient souvent ce qui ne va pas, et on oublie ce qui va. Ben, c'est vrai ou pas ? Hein, je ne pense pas être le seul à m'être fait cette réflexion. C'est souvent le cas. Et un défaut, on peut tous en avoir un. Et c'est souvent le cas, on se souvient beaucoup plus de quelqu'un par ses défaites, ses défauts, que par ses exploits et par ses qualités. Et Pierre, on s'en souvient beaucoup aussi pour « Arrière de moi, Satan !» On dit « Ah, il s'est ramassé, là !» Jésus-Christ qui lui dit « Arrière de moi, Satan !» Mais en même temps, juste avant, il lui a dit, Pierre a confessé « Tu es le Christ, tu es le Seigneur !» Et Jésus a loué cela. Et elle a dit, ce n'est pas de toi que tu dis cela, mais c'est du Saint-Esprit. Il a été le canal du Saint-Esprit à ce moment-là. Et il n'y avait pas la langue de feu encore. Hein. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu comme une puissance comme ils allaient le connaître plus tard. Il a été déjà le canal du Saint-Esprit à ce moment-là. On se souvient de Pierre comme celui qui a renié le Seigneur 3 fois. C'est vrai ? Ouh, c'est pas bien ça. Mais c'est sur Pierre. Christ avait prédit et avait dit « Je bâtirai mon Église. » C'est sur toi que je bâtirai mon Église. Son Église, c'est vous, c'est moi. Et sur toi, ça peut être sur son caractère, sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Vrai, véritable. Et dans ce passage, souvent, on se souvient aussi, Pierre, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi tu doutais ? Et voilà. Donc Pierre a douté pour la situation. Voilà, il manquait de foi. Il n'était pas au top à ce moment-là. Mais moi, je retiens que dans cette situation, alors que tout le monde, la Bible nous dit qu'ils étaient effrayés, pris de frayeur. Frayeur, c'est pas juste « Oh, j'ai peur !» C'est vraiment tout le corps, c'est tout l'être entier qui est terrorisé. Pris de frayeur, Pierre est le seul qui parle à Jésus. Pierre est le seul qui ose s'adresser à Christ. Qui plus est, pour lui demander de faire quelque chose. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce que Pierre demande à Jésus-Christ. Sur ce que Pierre demande à Christ. De quelle manière Pierre s'est-il adressé à Jésus ? Et donc dans ce passage, il nous est dit, donc d'abord, Jésus dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui dit, mais si, c'est toi. Alors c'est vrai que ça... Quelqu'un frappe à la porte, toc, toc, toc. Ouais, c'est moi. Prends le téléphone, qui est à l'appareil? C'est moi. Mais toi, qui? Toi, qui? C'est vrai que ça peut paraître... Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre dit, si, c'est toi. Pierre n'a pas l'air trop convaincu. Hein? Au premier abord, on se dit que, voilà, déjà, il commence à douter. Et visiblement, en tout cas, on le voit plus loin, c'est pas par rapport à ce doute-là que Christ le reprend. D'accord? Pierre ne semblait pas convaincu, mais par contre, il a une connaissance spécifique de Christ. Il a une connaissance particulière de Jésus. Toutes les fois où on l'a vu dire, tu es le Christ, il a observé, il a regardé. Toutes les fois où même des disciples s'en vont, 70 s'en vont, Christ leur dit, et vous ne partez pas? Seigneur, tu as les paroles de la vie? À qui d'autre irions-nous? Où est-ce qu'on peut aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et il proclame que Christ est la parole de la vie, c'est-à-dire la parole vivante. La parole qui est capable d'agir. Et Pierre connaît Christ comme étant celui qui réalise des miracles. Comme étant celui qui fait des choses que l'homme ne comprend pas, auxquelles l'homme ne s'attend pas. Pierre, cet homme-là, contre toute attente, contre toute l'histoire qu'on connaît de Pierre qui a un oui et qui a un non, Pierre est aussi cet homme-là qui sait reconnaître le Seigneur et qui entend dans cette situation reconnaître le Christ. Alors comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Dans la parole, dans la Bible nous met en garde contre les faux docteurs, n'est-ce pas? Contre ceux qui viennent avec des paroles qui font plaisir à l'oreille, ça nous fait du bien, mais qui derrière renie la foi. Et nous demande, la parole nous demande, de savoir mettre à l'épreuve ces choses-là. Sur la base de quoi? Sur la base de la connaissance que nous avons de Christ. La base de la connaissance que nous avons du Seigneur. Sur la base de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. La Bible nous encourage à prendre garde aux faux enseignements, aux voleurs de foi. Parce qu'il peut arriver qu'un ange vienne, un ange de lumière, nous dit la Bible, et qu'il nous séduise. Qu'il dise des choses qui plaisent à nos cœurs, qu'il dise des choses qui peut-être nous encouragent tout le temps, nous disent « c'est bien, continue, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas faire beaucoup de choses, le Seigneur va t'utiliser puissamment, mais écoute-moi, suis-moi ». Et la Bible met en garde contre des faux docteurs, des faux enseignements, des hommes qui parlent pour eux-mêmes. Et Christ est venu pour que nous parlions pour lui. Pour que nous soyons des témoins de sa grâce, que nous soyons des témoins de sa puissance, que nous sachions discerner le bien du mal, ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ce n'est que par la connaissance de Christ. Nous pourrions avoir toute la connaissance de la terre, mais c'est la connaissance de Christ qui nous amène au discernement, qui nous amène à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Bien des choses peuvent séduire notre regard, mais c'est ce qui est vrai que Christ attend de nous comme discernement. Pierre veut être certain qu'il s'agit bien de Jésus. Et dans la Bible, on connaît ces exemples, hein, on est Gédéon qui a placé la toison pour être sûr que Dieu lui parlait, pour être sûr que c'était bien Dieu qui lui parlait. Il y a Thomas aussi. Alors Thomas, bien sûr, le Seigneur lui dit, il ne doute pas non plus. Mais Thomas aussi voulait être certain. Il dit, non, c'est moi, je ne mets pas mes mains. Soyons certains de la parole que nous recevons du Seigneur. Soyons certains sur la base de sa parole, sur la base de la connaissance que nous gagnons chaque jour de lui. Pierre avait vécu avec Christ et il le connaissait. Et ils connaissaient donc Jésus comme étant un homme de miracle, un homme avec des paroles de vie. Et il avait une connaissance suffisante de Jésus pour finalement pouvoir le mettre à l'épreuve dans cette situation-là. Quand on mesure quelque chose, on a un étalon, d'accord ? On a une règle. Et Pierre avait sa règle à lui. Il avait quelque chose qui lui permettait de reconnaître Jésus. Et c'est intéressant de se poser la question pour nous-mêmes. Quel est notre étalon ? Si quelqu'un vient demain et nous prêche un faux évangile, comment pouvons-nous discerner cela ? Est-ce que c'est juste parce que je suis connecté au Saint-Esprit ? Amen, si c'est le cas. Mais c'est aussi par sa parole. Parce que lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, il n'est pas venu avec des éléments que spirituels, il est aussi venu avec la parole de Dieu. Il est aussi venu en lui disant, il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans la parole. Et Christ ne s'est pas laissé séduire par ça. Jésus ne s'est pas laissé séduire par ça parce qu'il connaissait, plus encore, il connaissait le passage, le verset, le contexte, ce que le Seigneur voulait dire au travers de cet écrit-là. Et le discernement, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle pour marcher une vie chrétienne véritable, qui ne se laisse pas troubler de droite et de gauche. Quel est notre étalon ? Ça, c'est la question que j'aimerais poser. Donc, quel est notre rêve ? Et je pense que c'est important que nous puissions nous la poser. Je ne vais pas répondre à cette question pour vous, mais c'est important que nous puissions nous la poser et réfléchir personnellement sur ça. Si demain quelqu'un me prêche un évangile, qu'est-ce que j'ai ? Comment est-ce que je peux, moi, juger de ça ? Est-ce que nous allons dire non, mais moi je suis un petit chrétien, j'ai pas fait d'études de théologie, je ne sais pas toutes ces choses-là. Mais il y a 100 ans, alors peut-être même un peu plus, il y a un peu plus de 100 ans en tout cas, il y a beaucoup de gens n'avaient pas la Bible. Et bien sûr, beaucoup de gens se fiaient à ce que celui qui était sur la chair prêchait. Mais aujourd'hui, nous avons tous une Bible. Aujourd'hui, nous avons tous une parole. Nous avons tous accès à cette parole de Christ qui est là, moi qui est devant mes yeux, mais qui est aussi dans mon cœur. Et qui doit être une porte ouverte de Christ dans notre cœur. Cette parole-là, chacun d'entre nous, nous l'avons. En Bible, en livre, en smartphone, en un tas de choses. On a accès à ça. On a accès à ça. Et donc si ce matin, on se pose la question, on se dit, mais moi je suis petit, je ne suis pas capable de pouvoir discerner si quelqu'un, il faut que je m'en réfère forcément à quelqu'un qui soit plus fort. Peut-être, tu peux aller voir quelqu'un qui est plus fort, mais tu as aussi ta part de connaissance dans la parole de Dieu, ta part de connaissance, de discernement et de Saint-Esprit qui peut être donné, qui peut te donner de connaître et de discerner ce bien du mal. La deuxième chose que Pierre dit, c'est ordonne. Et je lis la phrase dans son entier pour qu'on quand même on reste dans le contexte. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Pierre dit ordonne. C'est pas anodin. Le texte dit, en fait, pas juste ordonne, mais Pierre dit commande-moi. Ordonne-moi. C'est un peu bizarre. Je sais pas, mais moi, si je vais demander à quelqu'un de dire quelque chose, je vais dire, mais Seigneur, demande-moi quelque chose. D'accord ? Demande-moi quelque chose. Si le Seigneur te demande, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Si le Seigneur t'ordonne, tu dois faire. Si le Seigneur te commande, tu dois faire. C'est assez déconcertant cette demande de Pierre à Jésus. Surtout qu'ils étaient, comme je l'ai dit, au milieu d'une tempête. Une autre fois, quand ils étaient dans la tempête, Les disciples n'ont pas dit aux hommes ou autre chose, ils ne savaient même pas. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes en train de couler. Et Christ a baissé la tempête, a calmé la tempête, tout ça. Pierre aurait pu faire cette demande. Non? Il aurait pu dire, mais si c'est toi, je te connais, je t'ai déjà vu alors. Alors on ordonne que la tempête s'arrête. Vrai ou faux? On ordonne que cette tempête s'arrête. Je reconnaîtrai que c'est toi. Mais Pierre lui dit, ordonne-moi. Ordonne-moi. Il faut voir le contexte dans lequel les disciples étaient effrayés. Les disciples avaient peur. Pierre connaît Jésus. Et il a fait cette demande. Et je me demande, combien parmi nous on oserait faire cette demande? Moi je sais, personnellement, je peux dire, hein, Seigneur, utilise-moi. Bénis-moi. Je veux que le Seigneur me bénisse. J'ai plus de mal des fois à le formuler, Seigneur, bénis-moi, parce que voilà, je sais que le Seigneur me bénit. Mais en tout cas, ouais, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, ordonne-moi. C'est pas courant. Non? C'est pas très courant. Et Christ est connu comme étant celui, les disciples disaient de lui, qu'il parlait comment? Qu'il parlait avec autorité. Lorsque Christ parlait, les gens reconnaissaient, mais qui est cet homme qui parle avec une telle autorité? Qui est cet homme qui parle comme ça? Les gens reconnaissaient que Christ, lorsqu'il parlait, il y avait une autorité. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas contredire. Il y avait quelque chose auquel il ne pouvait pas s'opposer. Lorsque Jésus parle à une jeune fille et lui dit, « Jeune fille, lève-toi », même si les gens disent, « Mais non, mais Seigneur, mais voyons, mais elle est morte. Mais elle est morte, on va l'enterrer là. Jeune fille, lève-toi. » Christ parle avec autorité. Et ça dépasse juste cette jeune fille qui est morte, qui est allongée sur son lit. « Jeune fille, lève-toi. » Automatiquement, elle se lève. Automatiquement, la vie revient en elle. Le Seigneur de la vie, la parole de vie, la parole vivante, la parole agissante. Pierre connaît ce Jésus-là, qui a une parole agissante. Et il ne s'agissait pas juste de parler fort. Il ne s'agissait pas juste de mettre une ambiance. Christ parle, et cela est. Jésus parle, et c'est tout. Il parle, il sait parler avec autorité. Parce que sa parole, c'est celle, comme nous dit Jean, qui a créé toute chose. Celle qui était là au commencement. Au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là est venue parmi nous, et les hommes ne l'ont pas connue. Cette parole-là, parole d'autorité. Celui qui parle avec autorité, c'est celui à qui les éléments sont soumis. Pierre demande à Christ de manifester son autorité. De manifester son autorité, mais étrangement, pas sur la tempête. Pas sur la tempête, mais sur lui-même. Et je le répète, les disciples étaient effrayés. Et il n'y avait pas qu'une tempête dehors. Il n'y avait pas qu'une tempête à l'extérieur, mais il y avait aussi une tempête dans leur cœur. Il y avait une tempête à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils étaient affolés. Ils avaient oublié qu'autour d'eux, il y avait des vagues, il y avait la houle. Ils avaient oublié ça pour voir un fantôme qui les effrayait au point que, je ne sais pas, ils devaient être dans un coin, et seul Pierre a parlé. Et ce que je trouve fort, c'est que dans des situations où on peut se retrouver dans la tempête, et je l'ai vécu, la chose la plus difficile, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a au-dedans de nous-mêmes. C'est la tempête qu'il y a dans notre cœur. La tempête qui est là, et qui nous donne de l'angoisse, qui nous fait peur, qui nous empêche de dormir la nuit. qui nous empêche de reconnaître que Christ est Seigneur, que Christ contrôle toutes choses. Le plus dur, c'était que quelqu'un arrive à calmer cette tempête qu'il y avait là. Il peut y avoir des tempêtes à l'extérieur, mais si Christ est dans notre cœur et qu'il règne en paix en nous, où est le problème? Et Christ a marché dans cette tempête, et pour marcher, même pour marcher sur les eaux, il n'a pas calmé la tempête. Il n'a pas calmé la tempête. Et Pierre lui dit, ordonne-moi. Ordonne-moi. Donne-moi un ordre que je sois obligé de m'exécuter. Que je sois obligé d'avancer. Que je n'ai pas d'autre choix. Alors bien sûr, je vais peut-être au-delà, d'accord? Mais je pense que ce sont vraiment des pistes de réflexion sur ce que le Seigneur fait. Et il ne fait pas dans nos vies que les choses extérieures. Parce que parfois, nos prières montent sur les choses extérieures. Nos demandes, Seigneur, calme la tempête. Et l'objectif de Dieu, c'est souvent déjà de calmer cette tempête-là. La tempête qui est en nous. Que ça se calme au-dedans de nous. Que nous puissions voir le soleil briller, régner, et que nous puissions nous réjouir et garder cette joie en nous. Et là, c'est l'apôtre Paul qui disait « Réjouissez-vous, j'aime bien ce passage, en tout temps, je le répète, réjouissez-vous. » Et lui, il parlait, il était dans les chaînes. Lui, il parlait, il était enchaîné dans une prison. Réjouissez-vous toujours. Comment est-ce qu'on peut se réjouir quand on est dans la tempête? En ayant le Seigneur qui maîtrise notre cœur. Parce que lui seul sait maîtriser nos vies. Lui seul sait maîtriser les cœurs. Et pour bien des situations, la Bible dit que le cœur est tortueux et tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Christ peut le connaître. Christ connaît notre cœur. Christ connaît nos vies. Christ connaît nos situations. Jésus n'a pas toujours pour objectif de calmer la tempête qu'il y a autour de nous et la tempête qu'il y a en nous. Et pour que Pierre puisse oser sortir de cette barque, parce qu'il fallait quand même l'oser, hein, il fallait quand même le faire, hein, demander de sortir de la barque alors qu'il y a la tempête et que voilà, hein, pour que Pierre puisse oser sortir de cette barque, il fallait déjà qu'il y ait un miracle de cœur. Plus qu'un miracle physique, plus qu'un miracle tangible, plus que les éléments qui sont déchaînés autour qui répondent à l'autorité de Christ, il fallait déjà qu'il y ait ce cœur qui soit là, qui réponde à l'autorité de Christ. Ce miracle ne se fait que sur ordre du Seigneur, et c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne l'assurance. C'est lui qui donne la certitude que même si nos vies sont troublées, sont tourmentées, nous sommes entre les mains de Christ. Nous sommes entre les mains du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de celui qui règne sur l'univers. Pas uniquement sur la terre, mais sur l'univers, sur toutes sortes de choses. Nous sommes entre ces mains-là. Nous ne sommes pas dans le mensonge du diable qui dit que nous allons couler. L'autre chose que Pierre dit, c'est que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne-moi, commande-moi que j'aille vers toi sur les eaux. Et Pierre n'a pas demandé, c'était pas Walt Disney, Pierre n'a pas demandé, ordonne-moi que je marche sur les eaux. Pierre n'a pas demandé, ordonne-moi. Moi j'imagine Pierre un petit peu à faire le cabri là sur l'eau. Bon, c'est pas ça. Pierre n'a pas juste demandé à marcher sur l'eau. Il a demandé que j'aille vers toi. Que j'aille vers toi, sur les eaux, certes, mais que j'aille vers toi. Et dans cette demande que Pierre a faite, il reconnaîtrait Jésus. Leur frayeur apaisée, l'obstacle de la mer passé, Pierre demande, ordonne-moi que j'aille vers toi sur les eaux. C'est donc pas juste un voyage touristique, hein, mais sur les eaux tourmentées du lac de Galilée, il avait un but. C'était de rejoindre le Seigneur. C'était pas de bâtir le tour, c'était de rejoindre le Seigneur. Et pour ça, il fallait la puissance et le miracle de Christ, l'autorité de Christ, pour que Pierre fasse ce pas, sorte de la barque, et qu'il pose son pied dans l'eau, et Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Non mais, c'était pas un prestidigitateur. D'accord, il a coulé après. Mais il a marché. Après, il a vu la tempête. D'accord. Après, Christ lui a dit, mais pourquoi as-tu douté? Mais il lui a pas dit, pourquoi as-tu douté de ce que c'était moi? Il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Parce que, ayant vécu le miracle de Dieu, et ayant vécu la puissance, la gloire de Christ, dans ce moment-là, ce miracle que Christ a fait dans son cœur, pour qu'il ose sortir, pour qu'il marche sur l'eau, ayant vécu ça, et bien, il regarde encore autour et se dit, oh, il y a une grosse vague. Donc là, bien sûr, il se dit, bah, c'était gonflé quand même. Hein. Pierre, oh, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui s'est passé juste à l'instant? Qu'est-ce qui s'est passé juste à l'instant? Christ lui dit juste, viens. Viens. Pas discuter. Viens. Point d'exclamation. Français. Une parole d'autorité. Une parole de vie. Une parole qui a conduit Pierre à dépasser sa peur, à sortir de la torpeur et à marcher. À sortir aussi donc de la barque et à marcher. À faire ce qu'aucun homme a réussi à faire. À dépasser, à surpasser ce qui était là. Et ce qui me touche aussi dans ce passage, c'est que non seulement Pierre dit « Seigneur, ordonne-moi », mais ce que Pierre dit dans ce passage, c'est que « Je n'irai pas dans cette eau si ce n'est pas toi qui me le demande, si ce n'est pas toi qui passe devant moi, si ce n'est pas toi qui me dis de venir, je n'irai pas. » D'accord ? Pierre ne dit pas « Fais en sorte que je marche sur l'eau. » Bon, ben vas-y, viens. Pierre lui dit « Ordonne-moi que j'aille vers toi. » Et le miracle se fait. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette décision de vouloir rejoindre Christ avait un peu la même folie que lorsque Pierre voulait suivre Christ un peu plus tard jusqu'à la mort. Et que, bien sûr, il a renié le Seigneur. Mais Christ l'a réhabilité lorsqu'il a dit « Prévenez les disciples et prévenez Pierre » parce que certainement, il se considérait plus comme disciple, comme celui qui suit le Christ. Pierre ne mesure pas toujours la portée de ses mots. Il ne mesure pas toujours ce qu'il dit, mais il est sincère, il est entier. Et le petit plus, c'est surtout que leur intérêt, son intérêt, et tourner vers Christ, et tourner vers celui qu'il adore. Et les disciples, une fois que Jésus est rentré dans la barque, ils l'ont adoré. Mais Christ, mais Pierre, lui, dans sa sincérité, il a pu faire des fautes, il a pu se tromper, il a pu heurter une pierre. Mais Christ avait eu le discernement, c'est sur ce type d'homme, c'est sur ce personnage-là qu'il allait fonder son Église. Des hommes et des femmes entiers, des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes qui tombent parfois, mais des hommes et des femmes qui se relèvent par la grâce de Dieu et qui recherchent le miracle de Christ dans leur vie, qui ne recherchent pas uniquement le miracle des situations autour, parce que le vent était là, la tempête était là, mais ce n'est pas ça qu'ils ont demandé, ce n'est pas ça qu'il a demandé, mais le miracle de notre cœur qui nous pousse à avoir une relation avec Christ plus étroite, qui nous pousse à nous rapprocher de Christ, qui nous pousse à aller au plus proche de celui qui est, qui était, de celui qui demeure de toute éternité. Pierre parle avec impulsivité, mais il parle aussi avec instinct. Il ne maîtrise pas toujours ce qu'il dit. Et c'est surtout lorsqu'il délaisse son propre intérêt qu'il heurte une pierre. Quand il commence à se valoriser, quand des gens commencent à le pointer du doigt, d'accord ? Quand il se valorise, Seigneur, j'ai un conseil à te donner, ok, regarde-moi Satan. D'accord ? C'est surtout dans ces situations-là qu'il heurte la pierre et qu'il tombe. Si c'est toi, commande-moi que j'aille vers toi sur les eaux. Et le miracle des eaux paraît presque, les eaux de la tempête qu'il y a autour, paraît presque ridicule face au miracle qui a poussé Pierre à aller sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Et le miracle, il l'a poussé à aller sur l'eau. Et parfois, je trouve étonnant. Parfois plus étonnant, parce qu'il a pris un risque, il est allé dans l'eau, bon, il a, le Seigneur l'a relevé. Mais le miracle de Christ l'a poussé à aller dans l'eau. Et Christ lui répond, viens. Un ordre, un commandement. Et Christ n'a pas dit, mais quelle toupée ! Quelle toupée ! Pierre ose les choses. Et lorsqu'Abraham était avec Dieu, et qu'il marchandait avec Dieu, d'accord ? Parce que Dieu lui avait dit, bon, mais moi je vais aller à Sodome et Gomorre. D'accord ? Là-bas j'ai mon neveu, hein. D'accord ? Et qu'est-ce que tu veux ? Je vais aller, je vais tout détruire. Attends, s'il en reste, s'il y a au moins 50 personnes, tu vas pas la détruire ? Non, non, pour 5 ans je ne détruirai pas. 40 ! C'est presque... 30, 20, 10, non ? Pour 10, je ne détruirai pas. En fait, il n'y en avait même pas 10. Et Dieu a détruit la ville en faisant sortir Lot. Il connaissait parfaitement ce qu'il y avait. Et lorsque Dieu fait sortir Lot, il lui demande de marcher tout droit et de ne pas se retourner. Et c'est un choix qu'il lui demande de faire. Marche tout droit et ne te retourne pas. Et ils peuvent choisir de se retourner. Et sa femme s'est retournée. Et quand on marche dans la vie avec Christ, on suit une cible, n'est-ce pas ? On suit un but, on suit un objectif. On sait tous que pécher, c'est rater la cible. Pécher, c'est rater la cible, mais la repentance, c'est faire demi-tour, c'est pas juste dire Seigneur pardonne-moi, c'est faire demi-tour et retourner en arrière. Et c'est un choix. C'est un choix qui nous est donné de pouvoir faire demi-tour et d'aller en arrière. Adam et Ève avaient le choix. Et on croit des fois que Dieu ne nous laisse pas le choix. Des fois on se dit, mais Dieu impose, il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un dictateur. Adam et Ève dans le jardin avaient le choix. Dieu leur avait donné un jardin. Et leur avait donné un arbre. Il n'y avait pas deux arbres dans le jardin, il n'y avait pas juste deux arbres, mais plein d'arbres. Mais, comme beaucoup d'entre nous, quand il y a une graine, on va dessus. Quand il y a un pépin, on va dessus. Et de cela, de ces choix-là, de ces choix-là que nous pouvons faire dans nos vies. Pierre a fait le choix de proclamer Christ, a fait des choix, et dans d'autres choix, il s'est planté, d'accord ? Mais de ces choix-là, de ce choix-là en particulier, Pierre a choisi de dire que j'aille vers toi. Que j'aille, que je me dirige vers toi. Et des fois, on voudrait dire, Seigneur, choisis pour moi. Et vous savez, je suis convaincu que des fois, Dieu veut regarder comment est-ce qu'on choisit les choses. Quel choix est-ce qu'on va faire dans notre vie ? Je suis convaincu de ça parce que quand il s'est approché de Salomon, il a dit, demande ce que tu veux. Salomon a dit, mais que je sache régner sur ce peuple, que j'ai de la sagesse pour parler. Et ce que Salomon a demandé, c'est l'art de savoir choisir. C'est l'art de savoir faire le bon choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous savez, dans les situations de stress, ben, des fois, c'est là qu'on voit que le cœur est là. On peut parler beaucoup, on peut dire beaucoup de choses, faire beaucoup de promesses. Mais le choix se décide là-dedans. C'est de la bouche. C'est par la bouche que l'homme pêche. C'est pas uniquement parce que je fais, si je me lave les mains, comme il disait aux pharisiens, mais c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Et dans cette situation-là, de son cœur en détresse, Pierre est de cette situation-là, Pierre a sorti cette phrase, « Si c'est bien toi, ordonne-moi !» Il n'a pas réfléchi 100 ans. Vous voyez la situation ? Il n'a pas réfléchi 100 ans en se disant, « Waouh, qu'est-ce que je vais lui demander ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Pierre instantanément a dit, « Ordonne-moi et que j'aille vers toi !» C'est son cœur qui parlait. C'est son cœur qui parle. Comment est-ce que notre cœur parlerait ? Comment est-ce que notre cœur parlerait dans cette situation ? Dieu regarde nos choix parce qu'il veut que nous soyons participants de son royaume. Des fois, on regarde les situations avec Dieu en disant, « Seigneur, je suis ton esclave. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. » Mais des fois, le Seigneur dit, « Mais je voudrais bien qu'on parle, qu'on discute, d'accord ? Je voudrais bien te demander ton avis un peu. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Une fois, j'ai une situation dans laquelle j'avais envie de faire un projet, tout ça. Et puis, j'avais commencé des choses. Et puis, je me suis dit, « Mais... » Et au bout d'un moment, voilà. Je me suis dit, « Mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté ? Est-ce que c'est... » Et étrangement, vraiment, j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai dit, mais j'ai pas de problème avec ton projet. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire là-dedans. En quoi je peux participer. Et des fois, on voit Jésus comme étant effectivement le maître tout-puissant, et nous sommes ses esclaves. Mais n'oublions pas que Christ s'est fait esclave. N'oublions pas que lorsque Pierre, qui voyait, ce même Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, ce maître, qui s'est fait esclave devant lui, il a dit non, surtout pas. Il a dit, mais dans ce cas-là, on ne peut pas. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Et que la relation avec lui passe par je te dis et tu me dis. Et Christ nous a dit, je ne vous ai appelé plus mes serviteurs, mais je vous ai appelé mes amis. Parce qu'un ami, on lui parle. Parce qu'un ami, il nous parle. Il nous confie des choses. Et c'est là le genre de relation dans lequel le Seigneur veut que nous puissions nous investir. Dans ce genre de relation où nous connaissons le Christ comme celui qui parle et celui qui écoute aussi notre voix, qui écoute aussi ce que nous avons à lui dire, qui voudrait avoir notre avis sur des situations, bien qu'il connaisse toutes choses. On peut dire, ah, tu connais déjà toutes choses, c'est pas la peine. Mais il est celui qui veut être à l'écoute de nos projets. Il est celui qui veut être à nos côtés dans nos projets. Dans ce que nous aimerions faire. Et puissions-nous lui dire, Seigneur, calme la tempête dans mon cœur. Calme la tempête dans mon cœur. Parce que je sais qui tu es. Parce que je sais que tu peux faire de grandes choses. Parce que je sais que toi seul peux me donner la paix. Et quand il y a des gens qui viennent à Christ, qui entendent parler de Jésus, la chose souvent qui les marque, c'est « J'ai reçu une paix en moi que je ne comprends pas. » Il y a des gens qui savent convaincre. Il y a des gens qui savent parler, qui savent... Il y a des commerçants, des gens qui peuvent vous vendre un petit peu tout, toutes choses, sans qu'on se rende compte. Mais celui qui donne la paix, c'est seul Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup peuvent venir à Christ, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose en eux qui s'est fait, cette paix qui a été donnée par quelqu'un, et ils comprennent, lorsqu'ils entendent parler de la Bible, lorsqu'ils entendent parler de Jésus, que c'est lui qui a mis cette paix au-dedans d'eux. Cette paix que rien, ni personne ne pouvait calmer. Cette paix que, des fois, l'alcool, la drogue, a essayé de passer dessus, mais c'est toujours pire. C'est la dépression, ce sont les choses, c'est la dégringolade pour bien des personnes. Et moi, il m'arrive de voir des gens dans la rue, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est des personnes. Une fois, là, je vais vais dans un kebab et il y a une dame qui est dedans et ça fait un moment que je n'étais pas allé là-bas, elle était bien. Je me dis, mais c'est pas vrai cette dame, elle a quoi? On aurait dit qu'elle était droguée. Et il y a des gens qui peuvent passer par toutes sortes de choses, qui cherchent toutes sortes de situations au mal-être qui est intérieur, à la tempête qui fait rage au-dedans de eux. Mais cette tempête, seul Christ peut la calmer. Cette tempête que nous pourrions aussi connaître sur notre lieu de travail, dans nos relations avec les uns avec les autres, seul Christ peut la calmer. Et c'est cette tempête qui est le gage de notre relation avec Christ. C'est pourquoi Dieu a dit, si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, ne viens pas m'apporter des offrandes, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, parce que la tempête qui est dans ton cœur m'empêche de venir en toi. M'empêche. Je dépasse un peu la parole à la fois, mais c'est le sens. Je pense. Parce que Dieu veut calmer cette tempête qui est en nous, et par sa paix, régner pleinement dans nos vies. Amen. Je prie. Et Seigneur, je vais te demander, Seigneur, pleinement, Seigneur, tu règnes sur nos cœurs, tu règnes sur nos vies, et les tempêtes, Seigneur, qu'il peut y avoir en nous, Seigneur, maîtrise-les. Et je vous invite chacun personnellement, parce que ce n'est pas juste une prière collective que nous pourrons faire, mais chacun personnellement à vous placer devant Dieu. À vous placer devant Dieu. À vous rappeler ce que Pierre a demandé à Jésus. Ordonne-moi que j'aille vers toi sur les eaux. À vous demander à Christ de nous permettre d'aller sur les eaux avec lui, mais de calmer cette tempête qu'il y a au-dedans de nous. Et la tempête qu'il y avait autour des disciples, étrangement, ce n'était pas un problème. Parce que la Bible nous dit dans le passage que lorsque Christ fut monté sur la barque, la tempête s'arrêta. Il n'a pas eu besoin de parler, il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. La tempête s'est calmée d'elle-même. La tempête qui allait autour s'est calmée d'elle-même. Seigneur, calme la tempête qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Quand on voit des situations, que ce soit aux infos, que ce soit, Seigneur, autour de nous, dans nos situations qui nous sont proches. Seigneur, je te remercie parce que tu veux être celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui qui parle à nos cœurs et personne ne peut faire ce miracle. Même un ange de lumière ne pourrait pas faire ce miracle, Seigneur. Toi seul, Seigneur, connais nos vies, toi seul connais nos cœurs. Je prie, Seigneur, dans cet instant, Seigneur, que tu visites nos vies, que tu ôtes de nos cœurs, Seigneur, toutes les pierres, toutes les souillures, tout ce qui n'est pas de toi. Tu donnes à chacun, Seigneur, de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir crier vers toi, Seigneur. Crier vers toi, Seigneur. Ordonne-moi, commande-moi, Seigneur, et que j'aille vers toi. Sors-moi de la torpeur, sors-moi de la crainte, mais que j'aille vers toi. Toi seul peux faire ce miracle. Mets ta paix, Seigneur, dans nos cœurs. Mets ta paix dans nos vies, Seigneur. Cette paix qui surpasse tout entendement, cette paix qui surpasse toute chose, que l'intelligence ne connaît pas, ne sait pas analyser, et qui vient de toi. C'est cette paix, Seigneur, que nous réclamons, Seigneur, ce matin. C'est cette paix que je réclame ce matin, Seigneur. Au milieu de cette assemblée, parmi mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui sont là, je réclame, Seigneur, que ta paix, Seigneur, pénètre nos vies, pénètre nos cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, investis nos vies, Seigneur, par ta puissance, par ton autorité. Bien souvent, Seigneur, on veut faire une chose et une autre, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, investis nos vies pleinement. Pleinement, Seigneur. Convainc-nous, Seigneur, de tout péché, Seigneur, si c'est le cas. Mais donne-nous de revenir pleinement à toi. Donne-nous de faire demi-tour, Seigneur, de voir qu'ils ne sont pas, Seigneur, les tiennes, de revenir pleinement à toi.
trouver le sens entier, Seigneur, de nos vies en toi, Jésus. En toi, Seigneur. Amen.
Amen.